Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast Ninartri. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Les enfants du silence de Solène Marc est un témoignage autobiographique centré sur l'enfance de deux sœurs confrontées très tôt à la violence et à l'emprise, dans un environnement familial qui les réduit au silence. Le livre suit un parcours marqué par la peur quotidienne, impossibilité de dire, et l'accumulation de signaux d'alerte qui ne seront pas entendus ou pris au sérieux par les adultes et par des dispositifs sans se protéger, au travers un récit intime. Elle, auteur, met en lumière des mécanismes connus dans les situations de maltraitance, comme la sidération, la honte, la loyauté forcée et la normalisation de l'inacceptable. Elle, ouvrage, ne se limite pas au constat, puisqu'il évoque aussi le moment de bascule lié à un drame et elle, ouverture progressive, de un chemin de libération. Son objectif est double, faire ressentir de l'intérieur ce que vivent les enfants victimes, et susciter une prise de conscience collective sur les responsabilités et les failles de la protection de l'enfance. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le silence comme stratégie de survie chez l'enfant. Le livre met au premier plan une réalité souvent mal comprise, le silence des enfants victimes. Elle n'est pas un signe d'absence de violence, mais peut devenir une condition de survie. Quand la peur structure le quotidien, parler peut sembler impossible ou dangereux, et l'enfant apprend à s'adapter, à dissimuler, à minimiser. Parfois même à se dissocier de ce qu'il vit. Le récit insiste sur la manière dont elle emprise et la menace, explicite ou implicite, ferme elle accès aux mots. Et comment l'environnement peut renforcer ce verrouillage par l'indifférence, le doute ou la banalisation. Cette dimension éclaire aussi la difficulté, pour les proches ou les professionnels, de repérer la maltraitance à partir de signaux fragmentaires. En donnant une forme narrative à ce silence, l'auteur permet de comprendre de l'intérieur des comportements qui peuvent dérouter, se taire, protéger l'agresseur, apparaître sage. Ou au contraire se montrer en difficulté sans parvenir à expliquer pourquoi. Le témoignage invite ainsi à remplacer les jugements rapides par une écoute patiente et informée. Deuxièmement, violence familiale et emprise, comprendre la dynamique plutôt que elle épisode, elle ouvrage, ne décrit pas la violence comme une suite d'événements isolés, mais comme une dynamique qui organise les relations, le climat émotionnel et la perception de la réalité. Elle, enfance des deux sœurs, est présentée comme prise dans un système où la domination, l'imprévisibilité et la peur créent un cadre de contrôle. Cette approche met en évidence un point essentiel, ce qui blesse durablement elle, et pas seulement elle acte violent, mais l'installation de monde où elle, enfant, anticipe le danger. Elle s'auto-surveille et ajuste ses besoins pour éviter l'explosion. Le texte permet aussi de saisir comment elle, emprise, peut s'appuyer sur des mécanismes psychologiques classiques, tels que la culpabilisation et l'inversion des rôles, et comment elle détruit progressivement l'estime de soi et la capacité à demander de elle, en s'ancrant dans le vécu. Le récit montre que la violence intrafamiliale est souvent invisible de l'extérieur, précisément parce qu'elle s'accompagne d'un discours de façade ou d'une normalisation. Cette lecture aide à penser la protection de l'enfant comme une prise en charge globale, pas comme une réponse ponctuelle. Troisièmement, défaillance de protection, signaux non entendus et responsabilités adultes. Un axe fort du livre concerne les failles d'un système qui, en théorie, doit prévenir et stopper la maltraitance. Sans se réduire à une critique abstraite, le témoignage montre le décalage entre la souffrance vécue et la réponse obtenue, lorsque les signaux ne sont pas reconnus ou lorsqu'ils sont traités comme des problèmes secondaires. Et l'auteur interroge la chaîne des responsabilités, les adultes qui voient sans agir, ceux qui doutent, ceux qui pensent ne pas avoir la légitimité, et les institutions qui peuvent manquer de coordination ou de vigilance. Le texte insiste sur la difficulté à faire exister la parole dès un enfant dans un environnement où elle, adulte, est présumée crédible et où elle, enfant, peut être perçue comme confus, instable ou influençable. Cette réflexion dépasse le cas individuel en invitant à questionner les pratiques d'eau d'écoute, d'eau d'évaluation et d'eau d'orientation. Elle rappelle aussi que la protection repose autant sur des procédures que sur une culture de à l'attention, prendre au sérieux, vérifier, documenter, et ne pas attendre une preuve spectaculaire pour intervenir. Quatrièmement, le basculement après un drame vérite, dévoilement et sortie de l'emprise. Le récit évoque la nécessité d'un événement de rupture, décrit comme un drame, pour que la vérité puisse enfin émerger et que s'ouvre un chemin de libération. Cette partie met en lumière un paradoxe fréquent dans les histoires de maltraitance, la reconnaissance peut arriver tard. Parfois seulement quand la situation atteint un point critique. Elle, intérêt analytique, récite dans ce que cela révèle sur les obstacles au dévoilement, peur des représailles. Absence de confiance dans les adultes, confusion affective, mais aussi inertie de l'entourage qui attend un signe indiscutable. Le livre permet de comprendre que le basculement ne règle pas tout instantanément. Il déclenche souvent une période complexe, faite de confrontation au réel, de réorganisation émotionnelle et d'apprentissage, d'une nouvelle sécurité. En montrant la transition entre silence imposé et parole possible, le témoignage éclaire le rôle des cadres protecteurs quand ils existent, mais aussi la fragilité de cette étape. il s'agit d'un moment où elle, écoute et l'accompagnement peuvent faire la différence entre une sortie durable et une revictimisation. En dernier lieu, reconstruire après elle impensable de la survivance à la transmission, au-delà de l'enfance blessée, le livre donne une place importante à la reconstruction. Décrite comme lente et non linéaire, elle auteur met en avant idée de transformation des blessures en force, sans nier le poids durable des violences subies. Cette perspective est précieuse, car elle évite deux écueils, le désespoir total et le récit de guérison miraculeuse. La reconstruction apparaît plutôt comme un ensemble de mouvements reprendre du pouvoir sur son histoire, identifier les mécanismes d'emprise, réapprendre la confiance. Et se construire une vie adulte plus stable. Elle, écriture, y tient un rôle central comme moyen de comprendre et de transmettre. En choisissant de raconter, l'auteur inscrit son expérience dans une démarche de sensibilisation orientée vers la responsabilité collective et la prévention. Cette dimension de transmission confère au texte une porte sociale, il ne s'agit pas seulement de dire ce qui a été vécu, mais de contribuer à ce que d'autres signaux soient mieux entendus. Le témoignage devient alors un outil d'empathie et de vigilance pour le lecteur, en particulier pour ceux qui côtoient des enfants. En conclusion, les enfants du silence s'adressent à toute personne qui souhaite comprendre, sans voyeurisme, ce que signifie grandir sous la violence et l'emprise, et ce que produit le silence imposé. Les lecteurs sensibles aux récits autobiographiques y trouveront un texte centré sur le vécu. Tandis que les professionnels ou futurs professionnels de Elle Enfance, de Elle Éducation, du soin et du social pourront y repérer des enseignements utiles sur les signaux faibles, les freins à la parole et les effets des réponses insuffisantes. Le bénéfice principal est double émotionnel, parce que le témoignage favorise Elle Empathie et rend concrète la réalité des victimes. Intellectuel, parce qu'il pousse à réfléchir aux responsabilités adultes et aux angles morts de la protection de l'enfance. Dans une catégorie où existent de nombreux récits de survivance. Ce livre se distingue par son insistance sur la question du système censé protéger et sur la nécessité d'une prise de conscience collective, tout en laissant une place à la possibilité d'un chemin de libération. Il rappelle que écouter tot, croire avec discernement et agir sans attendre l'irréparable peuvent changer une vie. Si vous souhaitez soutenir Solène Marc, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.